Bonjour à tous et bienvenue à Vesoul, où se tient le 24e Festival international des cinémas d'Asie. Nous sommes littéralement à fond pour couvrir les films de la journée du samedi 3 février. On va commencer avec le film japonais de la section Visage des cinémas d'Asie contemporain. Nous avons vu aujourd'hui Goodbye Grandpa de Morikagi Yukihiro. De quoi ça parle, Kefren?
Goodbye Grandpa, c'est un film où leur grand-père dit au revoir parce qu'en fait il meurt au début.
Merci pour le pitch. Jérémy, qu'en as-tu pensé?
C'était vraiment le prototype, l'archétype du film de festival où tu as tous les clichés possibles sur le Japon, sur la représentation de la famille, sur... sur l'éveil d'une certaine sexualité, l'éveil du désir. T'as vraiment tous les clichés. T'as de l'herbe en gros plan avec la rosée du maté.
Oui, parce que c'est pas que thématique en fait, c'est aussi
la mise en scène.
En termes de clichés,
de photos et de mise en scène.
Du cinéma.
Esthétiquement, oui. Et donc t'as la rosée du maté, t'as les petits insectes en gros plan, t'as les feux d'artifice qui éclatent. Les femmes avec leurs petites gouttes de sueur sur le cou, t'as tout et c'est vraiment
En fait ça pâtit surtout d'une médiocrité du cinéma japonais contemporain, ce qu'il y a de médiocre dans la production actuelle et après d'un sentiment de déjà vu et de manque d'originalité totale par rapport à un film qu'on peut attendre dans un festival qui me donne une autre idée du cinéma. Alors, du coup, on va passer rapidement au deuxième film qu'on a vu, qui est un film coréen de Lee Dong-hun, qui s'appelle Mothers. Elias, est-ce que c'est un rapport avec le film d'Aronofsky?
Malheureusement, non. Parce qu'au contraire du chef-d'œuvre absolu de Darren Aronofsky, d'ailleurs, rappelons-le, le meilleur film de l'année 2017, tout film compris, en gros, Mothers ne parle pas du tout de la même chose, ne parle simplement en fait, de plusieurs mères, de plusieurs personnages maternaux.
Maternelle,
comme l'école.
On a dit qu'on était littéralement à fond.
Et qui, du coup, en gros, suite, on va recommencer du début, une jeune femme, du coup, qui était mariée avec un homme plus vieux qu'elle, va devoir se retrouver par rapport à quoi aux circonstances, à devoir prendre en charge, du coup, l'enfant, du coup, de cet homme-là, dont la mère est morte il y a très longtemps. Et du coup, à partir de cette réunion de famille, ou de presque famille, on se crée plusieurs rapports de mère à enfant, notamment pas du coup par rapport à ce personnage et par rapport du coup à un éventail du personnage qui va se créer autour. Et pour le pitch, je pense que voilà.
Ouais, et t'as bien aimé?
J'ai bien aimé, c'est beaucoup dire, c'est-à-dire que c'est un film qui n'a pas beaucoup de défauts marquants, dans le sens que c'est bien joué, bien réalisé, relativement bien écrit et bien mis en scène, etc. Il n'y a vraiment pas d'erreur de goût, c'est pas de faute de goût, c'est plutôt fin, en grande partie. Sauf quelques erreurs, sinon c'est plutôt bien écrit, etc. Mais il manque vraiment en fait un accroche qui en fait du coup peut permettre de capter le spectateur et réussir à l'emporter avec lui. C'est-à-dire qu'en fait que les événements se passent, les événements se déroulent de manière efficace et c'est très bien. Mais il n'y a pas vraiment de moment où tu es emporté par l'histoire, où vraiment on se sent intéressé et impliqué en fait dans l'intrigue. Ce qui fait que le film se déroule devant nos yeux. C'est pas désagréable, c'est pas un mauvais moment, mais au final on en sort, on...
C'est le deuxième film du réalisateur, du coup c'est une bonne production, je crois que c'est Fine Cut qui est à la production. C'est bien produit, là, les acteurs sont très bons, la thématique est intéressante. Après, d'une certaine mesure, je peux exactement reprendre à ce que j'ai dit sur Goodbye Grandpa, c'est-à-dire que ça apporte rien de nouveau au cinéma d'auteur, la faut dire un peu plus vite, mais si quand même cinéma d'auteur coréen. Par rapport à ce qu'on a pu voir sur les 5 dernières années dans l'industrie du cinéma coréen. Jérémy ?
Oui, je suis assez d'accord, ça reste très très bien produit, il n'y a rien à dire, mais ça manque un peu d'aspérité.
Justement, il n'y a peut-être trop rien à dire.
Ouais, non, mais c'est gentil, quoi. C'est gentil, ça dit des choses assez justes. Sur le fait d'être mère, comment...
En tant que mère, je comprends très bien, tu vois.
Non, mais ça dit des choses assez justes, ça touche souvent juste, c'est très bien joué, mais c'est vrai qu'on est un peu, pour le coup, on est vraiment spectateur, mais dans le sens où on n'est pas dedans, quoi. Et on est un peu extérieur au récit. Et ça nous sort du film finalement, et c'est ouais, ça.
Tu vois, c'est la même chose que les autres. Je reproche au film la même chose. Et même, ça me rappelle en Corée justement les dramas de fin d'année, qui sont des grosses machines avec des grands acteurs de cinéma d'ailleurs la plupart du temps, et qui sont un peu comme ça, des espèces de chroniques sur des sujets thématiques, qui sont vachement bien réalisés, très bien produits, mais qu'au final, on regarde sans trop y penser.
C'est vraiment, c'est symptomatique d'un certain cinéma coréen, c'est très pro.
Ouais, voilà.
C'est très pro, mais il n'y a pas de... C'est là qu'on reconnaît les grands auteurs, quoi. Voilà, non, mais voilà.
Ouais,
mais c'est là, qu'on reconnaît les grands auteurs et les productions très carrées, très pro, mais qui manquent d'âme, quoi, tout simplement.
Alors, comme on est sur notre dernier podcast, du coup, en fait, on va aller très vite sur la compétition officielle, parce que c'est un peu le sentiment qui domine sur cette sélection, qui est pas mauvaise. C'est plutôt des bons films, on en a parlé, il y en a eu d'autres dont on n'a pas forcément parlé. Mais cette impression, c'est que les films sont plutôt regardables, plutôt bien, mais ils n'apportent pas grand-chose à ce qu'est le cinéma aujourd'hui, en 2018, par rapport à ce qu'on peut voir dans les grands festivals internationaux.
Mais je préfère largement ça à la purge absolue qui était la compétition de l'année dernière.
J'essayais de tirer un peu vers le haut et tu pouf,
justement, voilà, c'est que comparé à l'année dernière et même l'année d'avant, qui, à part les deux excellents films qui étaient Tarlo et Being Good, n'étaient pas top, l'année dernière c'était absolument
affreux. Il y a deux ans c'était Tarlo et Being Good.
Oui.
Ouais, mais ça faisait déjà deux très bons films. C'était bien.
L'année dernière, niveau compète, c'était le zéro absolu.
Ouais.
Et là, cette année, on a quand même on a des films pas honteux, quoi. Aucun film on dit vraiment c'est naze, etc. Et puis surtout, les focus cette année, c'est les meilleurs focus que j'ai vus depuis que je suis à Vesoul.
Oui, alors, c'était là où je voulais arriver. Alors, il faut dire qu'il y a des films qu'on n'a pas vus, notamment Tiger in Winter de Lee Kang-kook, qui a fait notamment, tout à fait, Romance Joe et A Matter of Interpretation. Et donc, vous pouvez retrouver notre interview réalisée à Vesoul, il y a deux ans, sur le site, hein, qui était l'assistant de Dong Sang-soo sur Compte de cinéma Woman on the Beach. Et et les femmes de mes amis, donc ce qu'il fait, c'est vachement bien. Donc, c'est certainement le meilleur film de la compétition, mais comme il passe mardi et que nous partons demain, nous ne l'avons pas vu. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de films, donc l'autre gros événement qu'on n'a pas couvert, c'est la section Paroles de femmes, donc, qui a présenté quelques films dont on a parlé en amont sur le site. Et l'autre gros événement qui a apparemment marqué beaucoup de spectateurs, mais qu'on n'a pas pu couvrir pour des raisons éditoriales, puisque ça rentre assez lointainement dans notre géographie, c'est l'hommage à Mohamed Malas, qui est un cinéaste syrien. Comme ça, on a fait le tour de toutes les sections du festival. On va dire un mot peut-être pour faire un bilan, et comme Kefren, tu l'as interviewé ce matin sur l'hommage à Wong Xiaoshuai. Alors comment s'est passée cette rencontre? Est-ce que tu peux nous teaser un peu l'interview qu'on va pouvoir lire week-end prochain?
Wong Xiaoshuai, fidèle à lui-même et à justement l'évolution de sa filmographie, nous livre ses pensées sur l'état du cinéma chinois, l'état de son propre cinéma et l'état de la Chine, qui ne va pas si bien.
Et est-ce que tu peux nous dire un truc en exclusivité qui ne sera pas dans l'interview et qui t'a dit hors micro, par exemple, sur ce qu'il pense de certains jeunes cinéastes chinois?
Ah oui, Wong Xiaoshuai n'aime pas beaucoup Bigan et il pense que d'autres cinéastes chinois de la même génération sont beaucoup, beaucoup plus intéressants et qu'on devrait jeter un œil, on devrait s'intéresser beaucoup plus au jeune cinéma chinois et ne pas se focus sur Bigan.
Ça sera dit qu'ici, mais je crois qu'il t'a dit qu'on aimait Bigan en Occident parce qu'il avait un nom facile
à prononcer,
et donc c'est pour ça qu'on l'avait choisi parmi les cinéastes de la nouvelle vague.
Peux-tu dire un mot sur
Wong Xiaoshuai? Ouais,
ça va un peu rapprocher, parler très vite, parce que c'est vraiment ce que j'ai dit hier. C'est que voilà, moi j'ai jamais été vraiment extrêmement fan des cinéastes japonais, chinois, n'importe quoi, pareil. J'ai jamais été à fond,
littéralement
à fond sur les cinéastes chinois du coup de la 7e génération. Lu Ye, je suis pas spécialement fan, Jia Zhongke, je suis un peu plus, mais c'est pas non plus mon cas préféré. Et là vraiment, les 4-5 films que j'ai vus de Wong Xiaoshuai, ils m'ont tous extrêmement plu. Et c'est vraiment les premiers réels chinois à m'avoir vraiment intéressé à ce point-là. Et je serais sûrement passé totalement à côté sans ce focus, donc c'était vraiment super bien. C'était utile comme.
Tu bies.
Ah non, mais c'est moyennement Louillé et Jason que là, c'est.
C'est grave.
C'est chaud.
Ouais. C'est donc mon dernier podcast Istasia. Merci d'avoir écouté pendant tout ce temps-là.
You're fire.
C'est le dernier podcast d'Elias.
C'est bah, l'autre grand événement qui fait quand même qu'on était très très content d'être là. C'était le regard sur le cinéma de Mongolie. Alors on va revenir, comme on l'a promis hier, sur le cinéma de Jigig Suren Kombojaf. Je le prononce un tout petit peu mieux qu'hier, mais c'est pas encore ça, puisque nous sortons de la séance, un peu séance interdite, telle que l'a présentée Bastien Merson, qui a découvert cette trilogie Au bord de la mort, qui est composée de L'arme de Stèle, dont nous avons parlé hier, et de Traces d'une existence. Et enfin, deuxième volet que nous venons de voir, qui est Ruine tiède. Elias.
Je pitch ou je dis directement mon avis?
Tu peux recontextualiser un peu la narration du film.
Pour Ruine tiède, c'est un film, du coup, comme a dit hier Victor, post-apocalyptique, qui du coup en fait parlait de l'histoire d'un père et de deux filles qui vont du coup en fait chercher quelqu'un pour pouvoir perpétuer la race humaine, et de voir du coup entre religion plutôt païenne a priori et du coup réaction humaine, etc., de se chercher en fait à voir comment perpétuer l'espèce humaine et comment réussir à continuer la vie après du coup l'extinction quasi totale de l'humanité. Et mon avis, bah franchement, autant hier j'étais déjà extrêmement enthousiaste avant-hier par rapport au deuxième qu'on a vu de ce réalisateur, et je pensais vraiment pas qu'il pouvait égaler Traces d'une existence, mais on est vraiment devant l'un des plus grands peut-être réalisateurs du moins de son pays, c'est quasiment sûr, certain, même si je connais pas extrêmement bien le pays, mais s'il y a mieux, franchement, je veux qu'on me le dise directement.
Enfin, on n'a pas tout vu, mais
voilà. Voilà, c'est juste vraiment dans les meilleurs films qu'on a vu dans ce début d'année, tout truc compris, y compris l'année dernière, y compris le vécu à Vesoul, enfin voilà, c'est des films absolument hallucinants. Et si Romain Levert écoute ce podcast, quitte ton blog si t'as pas vu ce film. C'est un des films les plus chaotiques, Chaos Train, son blog. C'est un des films les plus chaotiques qui a été créé, qu'on a vu voir de toute ma vie. Et vraiment, c'est totalement fou, et tout se croise, tout se met en place. Enfin, je sais pas vraiment comment expliquer, mais t'as vraiment des scènes, une idée de mise en scène. J'ai pas envie de name drop des réals parce que je trouve ça un peu facile.
Ah, moi je vais le faire.
Bah oui, on le sait. Il y a vraiment une qualité en contraire métaphorique, mais qui s'est fois en fait beaucoup plus venimeuse et beaucoup plus méchante que dans Traces d'une existence encore. Et encore plus psychédélique parfois, qui met en place des visions qui sont extrêmement rares et qui sont extrêmement précieuses surtout. Et voilà, c'est vraiment des œuvres. Si vous avez un jour l'occasion de les voir, mais foncez, parce que c'est vraiment dans les films extrêmement importants de cette géographie de cette époque. Et c'est vraiment, voilà quoi, faut que ça sorte quoi.
T'as tout dit, mec.
Putain, c'est bien quoi. Merci Bastian.
Alors, Kefren, qu'est-ce que t'inspire ces ruines tiennes?
Ah ben, concernant le name dropping.
On va commencer par là.
Alors, ça m'a fait penser à.
Non, mais oui, ça m'a fait penser à. Mais. Le cinéaste mongol égale justement beaucoup de cinéastes de cette trempe.
Jigig Suren Kombojaf.
Oui.
C'est simple, Jigig Suren Kombojaf.
Ok, tu vas le dire pour moi.
Mais donc, Yikjo, sinon.
Mais sinon, il m'a rappelé des grands cinéastes assez fous, genre Zulawski sur le Globe d'Argent, qui est un film totalement fou et qui, justement, trouve comme égal ce film dont j'oublie le nom tellement il est fou.
Ruine tiède,
justement. Et,
on est littéralement à fond.
Et il me rappelle aussi d'autres expérimentations.
Il y a 2 heures du mat.
Celle de Philippe Garrel dans La cicatrice intérieure ou L'île de la Vierge et des choses comme ça, ou Jodorowsky. Et oui, le cinéaste met en place des visions et des moments qui sont. Que seul justement le cinéma peut permettre. C'est du pur cinéma, de la pure image. Et même. Pour un esthète comme moi, même juste le fait que, par exemple, qu'il filme des pieds en gros plan qui marchent sur la plage, c'est magnifique.
Ces plans, moi, ils me font beaucoup penser, comme dans le name dropping, là, je me suis dit, je me demande si ça me fait beaucoup penser à, bizarrement, au garçon sauvage, au niveau de la
colorimétrie. Oui, moi aussi, exactement.
Je suis pas sûr que Mandico et puis les.
Je pense pas non,
non, on pense pas
voir ce film.
Mais pour dire la modernité.
Exact.
Oui, c'est super.
Bon, en 1980, on voit. essayer ça.
Mais justement, il y a une espèce de folie comme ça, et tous les moyens du cinéma sont mis en œuvre, le son, l'image, la photographie, les acteurs, etc. Et une espèce de symbiose dans la folie de ce que peut permettre l'image du cinéma qui atteint un tel niveau que qu'on demande si on regarde...
C'est ça qui est assez fou, parce que quand ça a été présenté, on peut insister sur le fait que ça soit en 90-91, sur le cinéma de Mongolie, ça traite donc de la purge des années 30, on l'a dit hier pour La Ronde de Stèle, du viol dans les campagnes par des cadres du parti dans Troisième Résistance, mais Didik Soren Gambadjov est quand même avant tout quelqu'un qui a étudié le cinéma à Moscou et un formaliste de génie. Il y a des idées et des plans qui restent dans les trois films qu'on a pu voir de lui. Et quelque chose qu'il a dit dans l'interview, vous pourrez lire la semaine prochaine sur le site, c'est quelque chose qui semble évident quand on voit son cinéma, c'est-à-dire qu'il trouve qu'on a perdu, enfin qu'il y a le théâtre pour raconter des histoires pour la parole.
Parce qu'il pense que lui veut.
Que le cinéma est devenu parlant, notamment dans le cinéma mongol, c'est beaucoup trop bavard, et donc ça devient ennuyeux, et qu'il s'intéresse à ce que seul le cinéma peut montrer. Donc il crée des images et des plans purement cinématographiques. Donc, c'est très bien que ça parle de sujets aussi forts, mais c'est avant tout un cinéaste qui montre des choses par le biais du médium dans lequel il travaille.
Non, bah, vous avez tout dit, il y a une charge... Il y a une charge symbolique assez folle. Et il y a ça, c'est tellement...
C'est tellement une expérience, il y a tellement des idées formelles incroyables qu'on est vraiment... On est scotché, en fait. On reste un peu comme ça, on regarde, on ne sait pas vraiment où on va, comme les persos, et ça te prend comme ça d'un coup, et tu te dis « Waouh !» Et j'ai parlé quoi pendant la séance, j'ai parlé quoi, et je me suis dit waouh quoi, what the fuck, et des trucs comme ça, et ça devient une expérience quasi mystique quoi finalement.
Ouais, surtout, ouais.
On est,
c'est totalement mystique,
c'est mystique quoi. Ouais. Voilà, t'es limite en transe avec les persos quand il y a le vieux qui implore le ciel, etc. t'es avec lui quoi, tu te dis ouais mon gars quoi, je te comprends quoi. Parce que t'as la science du cadrage, la photo, la colorimétrie, la colorimétrie, on sait pas si c'est la copie,
ouais,
si c'est la copie ou si c'est voulu, parce que c'est ce que je disais à Bastien tout à l'heure, c'est que même si la copie elle est pas forcément en très bon état, ça donne un autre cachet au film quoi. On sait pas si c'est vraiment un soi du réel ou si c'est la copie qui est un peu abîmée, mais en tout cas, ça donne des trucs de fou quoi. Quand on le voit à côté du feu qui est complètement rouge, et les femmes qui sont derrière qui sont aussi toutes rouges, et t'as l'impression d'être en enfer ou tu sais pas où. C'est fou, ce film est fou. Cette trilogie, elle est vraiment incroyable.
Voilà, donc on parlait donc de Ruined et de la trilogie Au bord de la mort de Didik Soren Gambadjov. On va le dire et le redire et essayer d'en parler au maximum. Voilà, on a couvert autant qu'on pouvait ce 24e Festival des cinémas d'Asie. Vous pouvez retrouver la semaine prochaine nos interviews, ainsi que quelques critiques quand même des films de la compétition, dont Bagage qui vont être mis en ligne. Une interview du réalisateur de Mothers également, même si on a émis quelques réserves, c'est plutôt pas mal. Et voilà, on se retrouve le mois prochain pour un petit podcast qui sera soit un podcast bilan, soit consacré à l'animation japonaise par Netflix.
Ah, oui. La grosse merde.
Attends, mais spoil pas tout le podcast. See you, Space Cowboys.
Salut. Au revoir.